lien qu'il y a pu y avoir entre ces grands documents. Donc c'est la deuxième des constitutions dogmatiques, et c'est un sujet plus large que sur la seule écriture. C'est la constitution dogmatique sur la révélation divine. C'est-à-dire que l'écriture va être saisie dans le cadre plus large de la révélation, comme un moyen, bien sûr, privilégié de la révélation. Mais Dieu se révèle plus largement que par la seule écriture. Il se révèle aussi par son esprit, directement dans les cœurs, par la manière dont il agit, à travers notre participation à la liturgie. Et donc, le sous-titre Dei Verbum, c'est-à-dire littéralement de Dieu la parole, indique bien sûr le cœur de cette révélation, au sens où l'expression peut désigner la parole de Dieu qui se manifeste déjà dans l'Ancien Testament, mais aussi la parole de Dieu en personne, le Verbe de Dieu incarné, Jésus-Christ. Donc, à l'intérieur d'une réflexion, d'une présentation de ce qu'est la révélation, on va considérer comme un moyen central, privilégié, un véhicule privilégié de cette révélation, l'écriture, et au cœur de cette parole de Dieu à l'homme, il y a la parole personnelle qu'est son Fils. Elle est brève par rapport à, par exemple, Lumen Gentium, 4 fois plus brève, 5 fois plus brève que Gaudium et Spes. Donc elle se lit aisément en 3/4 d'heure, 1 heure, ça tient en 18 petites pages, et c'est ce qui va nous permettre de parcourir au moins rapidement les principaux paragraphes. Voilà, en guise d'introduction, j'en viens maintenant à ce que va annoncer un premier point, une mise en perspective. Donc, le volume du document est modeste par rapport à d'autres dans le Concile, mais par rapport à l'histoire antérieure, un document conciliaire, une constitution dogmatique consacrée à l'écriture et d'une telle ampleur, c'est nouveau. Si je vais voir dans l'Enchiridion Biblicum, c'est un petit recueil de tous les documents, Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura, c'est fait par des Italiens, ils donnent chaque fois le texte du document de l'Église qui a trait à l'écriture, depuis les tout premiers textes conciliaires, les textes des conciles, les encycliques, les déclarations, les textes de la commission biblique pontificale. Donc c'est un recueil de tous les textes du magistère au fil des siècles ayant trait à l'écriture, avec chaque fois le texte original selon la langue, donc les premiers, certains en grec, en latin, etc., et puis la traduction en italien. Alors c'est intéressant de parcourir ne fût-ce que la table des matières. Il y a 122 documents qui sont repris, collationnés. On voit que dans les premiers conciles locaux, des conciles notamment du nord de l'Afrique, à la fin du IVe siècle, les questions traitées sont surtout celles de la détermination du canon des Écritures. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, du point de vue de l'Église catholique, comme livre inspiré de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Donc, ce qu'on appelle le canon de l'Écriture, c'est la liste des livres reconnus comme inspirés et donc proposé à l'usage des fidèles. C'est un souci de ces premiers conciles. À part ça, sur l'écriture comme document, lors du premier millénaire, il n'y a pratiquement rien comme document officiel de l'Église. Je ne dis pas que ça n'intervient pas dans des discussions, bien sûr, dans controverses, que ça nourrit pas les conciles, mais comme promulgation, définition, prise de position, il y a relativement peu de choses. Au Concile de Vienne, au début du XIVe siècle, on voit qu'on encourage l'étude des langues bibliques dans un décret officiel pour que, en connaissant les langues bibliques, on puisse avoir un accès vraiment à l'écriture originale et mieux goûter la parole de Dieu. Les conciles de Florence au XVe siècle, le concile de Sens près de Paris au début du XVIe, traitent encore la question du canon des Écritures. On voit que c'est une question qui, même si dans les conciles locaux de la fin du IVe siècle que je rappelais étaient réglés officieusement, il a fallu attendre jusqu'au XVIe siècle, le concile de Trente, un décret qui définitivement promulgue la liste officielle du canon des Écritures. Et c'est ainsi qu'on arrive au concile de Trente, donc le grand concile dans le cadre de la contre-réforme, qui en 1546 produit des documents, avec un décret d'abord sur la fixation définitive officielle du canon des Écritures. C'est important parce que nous sommes à l'époque dans le débat avec les luthériens. Et la tradition luthérienne s'alignait plutôt sur la position de Saint Jérôme, lequel favorisait surtout le contenu de la Bible hébraïque. Or, la Bible catholique reconnaît, à côté des livres en hébreu, aussi des livres qu'on trouve dans une grande traduction en grec de l'Ancien Testament, qu'on appelle la Septante. Et là, Augustin était partisan de leur prise en compte. Autrement dit, le canon, la liste des Écritures reconnue par les catholiques, est plus large que la liste des Écritures reconnue par les luthériens. Un reflet de cela, vous l'avez dans la comparaison que vous pouvez faire entre la table des matières d'une Bible représentative de la position catholique, la Bible de Jérusalem, et la traduction écuménique de la Bible, où vous avez le même contenu, mais les livres qu'une Bible catholique a en plus par rapport à une Bible luthérienne sont mis à la fin. C'est ce qu'on appelle les deutérocanoniques, c'est-à-dire entrer en un second temps dans la liste des Écritures. Et donc le débat à ce moment-là, pour une liste large, qui est la position catholique, ou une liste plutôt limitée au seul livre hébraïque, était le débat entre les catholiques et les protestants. D'où la prise de position, à ce moment-là spécialement, officielle de la part de l'Église catholique. Donc dans le Concile de Trente, fixation définitive du point de vue catholique sur le canon des Écritures, un décret sur les conditions d'édition légitime de la grande traduction en latin qui a nourri l'Église pendant 15 siècles, celle de Saint Jérôme, qu'on appelle la Vulgate, c'est-à-dire destinée à être vulgarisée, au sens qu'elle donne un accès, dans un bon latin de l'époque, à l'écriture dans cette langue qui était celle alors des milieux cultivés, et puis un décret sur l'encouragement à favoriser l'écriture du point de vue de son enseignement, sa prédication, sa lecture. Donc quelques éléments de la position du Concile de Trente sur l'écriture sainte. Puis il y a le Concile, mais c'est encore relativement modeste, ce sont trois petits décrets. Le Concile, alors Vatican I, donc le Concile au XIXe siècle de 1870, dans une constitution dogmatique sur la foi, qui s'appelle Dei Filius, a un chapitre, de nouveau, c'est pas très long, mais c'est 26 lignes sur la révélation, dont notamment un canon, c'est-à-dire une définition un peu précise de ce qu'il y a à tenir ou à ne pas tenir en matière de foi. Donc un canon pour confirmer la liste qu'avait donnée le Concile de Trente, encore, et un canon sur la question des miracles, de leur récit dans l'Évangile et, je dirais, la foi à y accorder. Donc vous voyez que jusqu'au document du Concile de Trente, d'une part, de Vatican I, d'autre part, il n'y avait pas eu énormément de choses. Mais alors depuis, outre ces documents conciliaires, depuis un siècle et demi, il y a eu beaucoup de documents de l'Église, des encycliques notamment de Pape, sur la question de l'écriture. Et cela en lien avec ce qu'on a appelé à la fin du XIXe siècle la question moderniste. C'est-à-dire que des instruments scientifiques plus modernes étaient à la disposition désormais des exégètes. Les progrès de l'archéologie biblique, de la connaissance des langues bibliques, de l'histoire du Moyen-Orient ancien, etc. Ce qu'on appelle la crise moderniste, c'est le fait qu'il y a eu, parfois de la part de certains, un usage de ces sciences qui peuvent servir, la science biblique, mais un usage trop étroit et trop scientiste, trop positiviste, c'est-à-dire limitant son approche au seul fait vérifiable et ne prenant pas assez en compte le surnaturel et la transcendance de Dieu, d'où une réaction de l'Église catholique. Et c'est dans le cadre de cette crise moderniste, alors qu'il y a eu des documents progressifs, des papes importants, pour que l'Église catholique puisse envisager un usage progressivement fructueux et équilibré de ces nouveaux instruments scientifiques dans l'étude de la Bible. Ce qui explique que sur les 122 documents repris ici, il y en a en fait 80 qui datent des années 1900 et suivantes. C'est vous dire qu'il y a eu une intensification des prises de position écrites de l'Église par rapport aux questions bibliques. Et notamment, trois encycliques de pape, une vers 1893 de Léon XIII, je vous épargne les titres en latin, et puis Benoît XV en 1920, et puis comme la première encyclique importante était de 1893, pour fêter ses 50 ans, donc 50 ans après, en 1943, il y a eu un autre document important du pape Pie XII, et pour fêter les 100 ans de ce document, soit alors en 1993, il y a eu un document, non pas une encyclique, mais un document de la Commission biblique pontificale sur l'interprétation de la Bible dans l'Église. Bref, on voit que ces documents préparent alors un document conciliaire d'ampleur au Concile Vatican II, qui va être Dei Verbum. L'importance de la problématique biblique, je l'ai signalé à travers l'intensification des documents du magistère qui en traitent, mais on peut la voir aussi à partir, c'est ce que je souligne maintenant, de quatre facteurs qui ont favorisé comme un regain d'intérêt et un réveil de l'Église catholique dans sa prise en compte de l'Écriture, qu'elle avait bien sûr toujours fréquentée. Mais comme au moment de la Réforme, Luther avait prôné un recours à l'écriture en disant « sola scriptura », c'est-à-dire « il faut revenir à l'écriture dans sa nudité, si je puis dire, originelle », et il faut le reconnaître un peu au détriment de la tradition aussi interprétative qui nous véhicule cette écriture, par rapport à cette restriction opérée par Luther, d'une certaine manière, vouloir mettre le croyant en face de l'écriture, mais en négligeant la tradition interprétative de l'Église, par rapport à cette restriction, il y a eu une réaction de l'Église catholique qui a fait qu'elle a été extrêmement prudente pour encourager les chrétiens, les catholiques, à la lecture de l'écriture. Ce qui veut dire que l'Église catholique, globalement, a pris du retard, si je puis m'exprimer simplement, au XVIe siècle, par rapport à nos frères protestants, qui, eux, fréquentaient plus généreusement l'écriture. Et jusqu'il y a peu, il faut reconnaître que souvent, un protestant cultivé connaît beaucoup mieux les écritures qu'un catholique. Cela vient de cela. Alors, par rapport à ce relatif retard de l'Église catholique en matière d'accès à l'écriture de tout le peuple de Dieu, quatre facteurs ont alors permis de remonter la pente. Je les énumère très brièvement. Il y a eu d'abord, comme je le signalais à l'instant, le progrès des sciences annexes qui ont permis d'approcher l'écriture de manière plus scientifique. Il y a la figure d'un grand dominicain, le père Albert Lagrange, qui a permis de surmonter la crise moderniste que j'évoquais parce qu'il était à la fois très rigoureux, très informé scientifiquement, point de vue des langues bibliques, de l'archéologie, de l'histoire biblique, mais ayant en même temps un très grand sens équilibré de la foi et de la tradition. Et donc il a rendu à l'Église catholique l'éminent service d'être un exemple de scientifique qui applique son savoir à la connaissance accrue de l'Écriture, mais en même temps dans un esprit de service de la foi qui ne soit pas réducteur. Donc un usage judicieux du progrès des sciences annexes a été certainement un facteur de regain dans l'écoute, l'approche de l'écriture. Deuxième facteur, le renouveau des études patristiques, c'est-à-dire des pères de l'Église. Pourquoi ? Les pères de l'Église élaborent leur théologie en étant pétris d'écritures qu'ils connaissent très bien. Dès lors, revenir aux pères de l'Église, dans leurs homélies, parfois dans leurs commentaires délibérés et suivis d'un livre biblique, c'est nécessairement, en les fréquentant, fréquenter, à nouveau frais, l'écriture. Et une grande collection qu'on appelle les sources chrétiennes a favorisé l'édition et donc la connaissance de tous ces textes des pères de l'Église, les pères latins, les pères grecs, etc. Et donc ça a été un second facteur de redécouverte de l'écriture que cette fréquentation des pères de l'Église qui en était nourrie. Un troisième facteur, c'est le renouveau liturgique avec la place qu'il accorde à l'écriture. À l'abbaye de Solesmes, un abbé, donc Guéranger, au XIXe siècle, a vraiment fait de sa communauté un foyer de renouveau liturgique et d'inspiration largement biblique. Et c'est dans cette foulée que l'importance renouvelée de l'attention à la liturgie de la parole, que les fidèles, lors de la messe, puissent suivre, entendre les textes de l'Écriture, pas seulement en latin, mais aussi dans leur propre langue, l'usage des missels, les revues liturgiques, un chant liturgique qui soit nourri des paroles de l'Écriture, des homélies qui soient davantage des commentaires de l'Écriture qu'on vient d'entendre que des sermons thématiques. Tout cela, je dirais, a contribué aussi à revivifier l'approche de l'écriture. Et enfin, quatrième facteur, donc à côté du renouveau des sciences annexes, la connaissance des pères de l'Église, tout le mouvement liturgique, quatrième facteur, c'est le progrès du dialogue écuménique. Puisque dans le dialogue avec nos frères protestants, on entrait en dialogue avec des gens qui était davantage, pour moins dans certains cas, pétri de l'écriture, il convenait, nous-mêmes, je dirais, de pouvoir dialoguer davantage sur ce terrain avec eux. Et un des fruits de ce travail, c'est la traduction écuménique de la Bible, bien évidemment. Voilà autant de facteurs qui ont contribué à ce renouveau de la connaissance de l'écriture, dont alors Dei Verbum apparaît comme un fruit remarquable. Ceci dit, je vous propose maintenant une vue d'ensemble, rapidement, une première vue d'ensemble du document. Son titre, donc Constitution sur la révélation divine, mais son sous-titre Dei Verbum, je l'ai commenté en disant que c'est un aspect déterminant dans le cadre plus large de la révélation. Un mot sur la genèse du texte, donc le schéma préparatoire de la Constitution portait précisément sur les sources de la révélation, parmi lesquelles, on peut voir, la source privilégiée, c'est l'écriture, mais il y a aussi la tradition qui l'interprète. Donc le point de départ, c'était les sources de la révélation, et ça a donné lieu à des débats parfois mouvementé, passionné, entre les églises, notamment autour du statut de l'écriture sainte, de méthodes d'exégèse, hein, encore dans la foulée des questions qu'avait posées, entre autres, la crise moderniste, un renouveau des méthodes exégétiques, et puis aussi des rapports entre la Bible comme parole de Dieu et la tradition qui l'interprète. Donc qui était au cœur quand même du dialogue avec nos frères protestants. Toutes ces questions de débat ont fait que la rédaction du texte a été parfois difficile, laborieuse. Il a fallu que le pape Paul VI encourage la commission, qui était parfois à certains moments un peu désemparée, qu'il l'encourage à poursuivre son travail avec persévérance, et dès lors, fin septembre 64, la Constitution était rédigée. On a encore discuté dessus au début octobre pendant une bonne semaine et on a encore laissé passer un an avant son approbation définitive l'année suivante, comme je le disais, le 18 novembre 1965, par une majorité écrasante de voix. Je vous invite à prendre, donc ceci dit sur le titre et un mot très bref sur la genèse du document, maintenant, son plan. Je vous invite à la voir sous les yeux. Voyez que c'est un plan qui procède en 6 chapitres. Vous constaterez que les deux premiers partent du cadre le plus large, la révélation et puis sa transmission. Alors, au passage, on trouve déjà en partie l'écriture, mais c'est à partir du chapitre 3, 4, 5 qu'on voit au titre des chapitres que cette fois-ci, leur objet à part entière, c'est l'écriture. Chapitre 3, l'inspiration de l'écriture, son interprétation. Chapitre 4, l'Ancien Testament, puis le Nouveau. Et enfin, l'écriture dans la vie de l'Église. Avant cela, on part de la révélation elle-même. Et puis, il ne suffit pas que Dieu se soit révélé, il faut encore que cette révélation puisse être, dans les siècles, dans la vie de l'Église, transmise avec fidélité. C'est l'objet du chapitre 2. Je reprends un peu le parcours. Donc, le premier chapitre envisage la réalité de la révélation pour elle-même, et cela, on le reparcourra, à partir de ses préparations dans le temps de l'Ancien Testament, et puis de son achèvement plénier dans le Christ. Il va falloir qu'il y a une unité du dessein de Dieu qui se révèle. C'est la même intention de se révéler qui préside à l'Ancien Testament comme temps de préparation, et puis à son plein exaucement dans la Nouvelle Alliance. Comme je le disais, un deuxième chapitre pour garantir, alors que ce qui a été révélé, mesuré, qu'on peut garantir que ce qui a été révélé est fidèlement transmis. Et là, on va faire le parcours de la transmission de la révélation, en tout cas pour ce qui concerne le temps de la Nouvelle Alliance, en partant des apôtres, leurs successeurs. On avance dans le temps de l'Église. Et dans ce temps de l'Église, la transmission de l'Écriture va de pair avec les progrès de la tradition qui l'interprète et la transmet. Tradition, transmission sont des mots proches et étymologiquement au départ du même vocable. Donc la transmission est déjà dans ce chapitre la question importante du rapport entre tradition, transmission et écriture sainte. Puis, lorsque nous savons que cette écriture, que la révélation de Dieu nous a été bien transmise, il nous faut mesurer en quoi elle est fiable. Pourquoi est-elle fiable? Parce qu'elle est inspirée par Dieu. D'où l'inspiration de l'écriture, c'est cela qui garantit, si c'est l'Esprit de Dieu qui l'a inspirée, qu'elle me dit la vérité sur la réalité et de Dieu et de l'homme devant Dieu. Il faudra voir à quel niveau se situe cette vérité, comment l'interpréter. Mais inspiré, vous voyez que c'est le même mot à la base que esprit. Ça veut dire inspiration, ça veut dire que l'écriture est le résultat de l'assistance, dans le labeur des auteurs sacrés, de l'Esprit de Dieu. Et c'est parce qu'elle est inspirée qu'elle est fiable et qu'on peut s'interroger alors sur la vérité de l'écriture, ou comme on dit parfois, son inhérence, c'est-à-dire le fait qu'elle ne se trompe pas. De nouveau, il faudra voir à quel niveau elle entend nous faire accéder à la vérité. Et si l'écriture, dans sa composition, a été suscitée par l'inspiration divine, pour comprendre ce qu'elle veut me dire, il faut que moi-même, pour l'interpréter avec justesse, je le fasse en demandant l'assistance, l'éclairage de l'Esprit. D'où l'inspiration de l'Écriture et sa juste interprétation se mettent l'une et l'autre, je dirais, sous la mouvance de l'Esprit. Pour comprendre en vérité ce que l'auteur a dit, pour l'interpréter de juste manière, je me mets à l'écoute de ce même Esprit qui l'a inspiré. Et puis on parcourt l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, avec à la charnière, vous voyez le paragraphe 16, c'est important, l'unité des deux testaments. Donc, à la fin du chapitre sur l'Ancien Testament, on nous dit, attention, ce ne sont pas deux réalités à couper l'une de l'autre, hétérogènes, comment On annonce la question de l'articulation entre les deux testaments. C'est ce qu'il y a dans ce paragraphe 16. Puis le Nouveau Testament. Et enfin, si Dieu se révèle, si cette révélation est transmise, si cette révélation est fiable, si cette révélation doit prendre en compte et l'Ancien Testament et le Nouveau, c'est finalement pour, non pas la satisfaction intellectuelle des exégètes, mais c'est pour la vie de l'Église. D'où le sixième chapitre, les Écritures, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. Voilà un peu le mouvement de ces six chapitres. Je vous ai mis sur la même feuille, dans le catéchisme de l'Église catholique, le fait que, dans sa première partie, qui est consacrée à la profession de foi, avant d'en venir dans une deuxième section au credo lui-même, il y a une première section qui réfléchit un peu sur ce qu'est la foi, et voyez qu'elle est composée de trois chapitres, dont le deuxième, Dieu à la rencontre de l'homme, c'est ça, Dieu qui se révèle, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir vers l'homme, Dieu à la rencontre de l'homme, eh bien, dans une organisation un peu différente, mais contient, même littéralement, chacun des six titres de chapitre de Iverbum. Ce qui veut dire que l'édition du catéchisme de l'Église catholique récente est nourrie, manifestement, de Iverbum. Ceci dit rapidement, on va pouvoir y revenir. Un dernier point que je touche pour cette vue d'ensemble, avant de commencer à baliser alors pas à pas le texte, c'est le suivant. Il y a un présupposé. On commence par la révélation, mais il y a une question préliminaire. La révélation est-elle nécessaire et est-elle possible? C'est ce que diront certaines personnes de nos jours. Oui, j'ai peut-être le sentiment d'un Dieu qui a créé le monde, mais une fois que le monde est créé, je m'en émerveille. Mais après ça, l'homme se suffit à lui-même. Je ne vois pas pourquoi il a besoin que Dieu vienne à lui, qu'il a besoin que Dieu se révèle. Et même en aurait-il besoin, je doute que ça soit possible, parce qu'il y a un tel fossé, sans doute, entre Dieu transcendant et notre humanité. Donc, il y a un présupposé, c'est de croire que la révélation est nécessaire à l'homme, il est possible de la part de Dieu. Et cela s'exprime, et là on commence à entrer dans le texte, ça s'exprime en deux lieux, d'abord dans notre texte de De Verbum, et puis, je l'expliquerai aussi, par quelques mots corollaires dans le catéchisme. Dans notre texte, Dei Verbum, c'est dans le paragraphe 6, vous voyez, chapitre 1, paragraphe 6, révélation divine et connaissance naturelle de Dieu. Vous l'avez sur la feuille, parmi les extraits. J'ai mis Lumen Gentium, c'est une erreur de frappe, c'est Dei Verbum, bien sûr. Dei Verbum, numéro 6, révélation divine et connaissance naturelle de Dieu. Je le lis. « Par la révélation divine, Dieu a voulu se manifester et se communiquer lui-même, ainsi que manifester et communiquer les décrets éternels de sa volonté concernant le salut des hommes, à savoir leur donner part au bien divin qui dépasse toute pénétration humaine de l'esprit. » Maintenant déjà, Dieu veut se manifester d'une part deux choses. Il veut se manifester lui-même et manifester sa volonté concernant le salut des hommes. La révélation va nous faire connaître qui est Dieu et aussi qui est Dieu pour nous en tant qu'il nous sauve. Et cela pour nous donner part au bien divin. Mais des biens divins qui dépassent toute pénétration humaine de l'esprit. Alors, si ça dépasse les possibilités de mon esprit laissé à ses seules forces, j'ai besoin que Dieu fasse un bout du chemin. Je peux de mon côté aspirer à me rapprocher de Dieu, mais je n'y arriverai pas par moi seul. Donc j'ai besoin que Dieu se révèle à moi. C'est en raison de la faiblesse et du péché humain que la révélation est nécessaire pour entrer en communion avec Dieu. Le Saint Concile, je continue, le Saint Concile reconnaît que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. C'est ce que Saint Paul redit dans la lettre aux Romains. Déjà en contemplant la beauté de la création, l'homme honnête et sincère peut entrevoir quelque chose de celui qui en est au principe, du Créateur. Donc, à travers, par la beauté de la création, accéder à Dieu. Mais le Saint-Concile, il enseigne aussi qu'on doit attribuer à la révélation le fait que les choses qui, dans l'ordre divin, ne sont pas de soi inaccessibles à la raison humaine, le langage conciliaire est parfois, donc si je remets les choses dans l'ordre, les choses qui de soi seraient accessibles à la raison humaine, de soi, il y a moyen déjà d'accéder à Dieu en contemplant la nature, un aspect de Dieu, peuvent aussi, c'est la même chose, dans la condition présente du genre humain. La condition présente du genre humain, c'est une condition qui n'est plus ce qu'elle était dans la transparence originelle. Il y a eu la chute. Et donc, le péché a peut-être quand même un peu assombri notre capacité de percevoir ces choses. Alors, elles peuvent être connues de tous, grâce à la révélation. Donc la révélation est nécessaire parce que dans la condition présente de notre humanité, quelque chose de notre capacité qui n'est pas totalement anéantie, l'homme a été créé à l'image de Dieu et donc il reste quelque chose en lui de cette capacité à accéder à Dieu, mais qui est quand même entravé, freiné, obscurci, dévié par le péché. Et donc, ce n'est pas par ses seules forces que l'homme va pouvoir accéder à Dieu. Dieu doit se révéler pour surmonter cet hiatus. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on a le raisonnement complet et formulé d'une certaine manière, de manière plus simple. La Sainte Église, notre Mère, enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu par la lumière naturelle de la raison humaine. Ça rejoint notre texte. Parce que sans cette capacité, l'homme ne pourrait rien accueillir de la révélation de Dieu. Et on rappelle, il est créé à l'image de Dieu, et je disais, la faute n'a pas anéanti cette image de Dieu, mais elle l'a assombrie. Mais, c'est la suite, dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison. Et là, il y a un texte du pape Pie XII, qui est donné en détail en ce sens. Donc, de soi, Dieu peut être connu par l'homme, par la lumière de sa raison naturelle, mais dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, c'est devenu quand même fort difficile. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, c'est-à-dire sa finitude, mais aussi les vérités religieuses et morales qui de soi ne sont pas inaccessibles, afin qu'elles puissent être dans l'état actuel du genre humain, ça veut dire, si vous lisez entre les lignes, qui est un genre humain pécheur aussi, connu, alors, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Je me suis un peu attardé là-dessus, parce que le concept même de révélation, pour nos contemporains, fait déjà obstacle. Alors, avant de parler de la beauté de la révélation, de sa transmission, etc., il faut d'abord avoir compris pourquoi il est nécessaire que Dieu se révèle à l'homme. C'est ce que je viens de faire. Ceci dit, entrons dans le parcours du texte. Donc là, je vais suivre le texte et en soulignant au passage l'expression. Il y a d'abord le premier point, c'est un avant-propos, vous voyez, il est mis dans la table des matières, intitulé « Préambule ». Ce qu'il y a dans ce préambule, le point d'insistance, je vous lis quelques lignes, « Marchant sur les pas du Concile de Trente et du premier Concile du Vatican », pour ça que j'ai rappelé ces deux conciles, le présent concile se propose de présenter la doctrine authentique sur la révélation divine et sa transmission, vous voyez qui il pointe d'emblée les deux premiers chapitres, pour que, là ils disent le but final, grâce à cette proclamation de salut, le monde entier, et là ils reprennent une formule de saint Augustin, croit en écoutant, espère en croyant, aime en espérant. Autrement dit, Si le Concile se donne la peine de faire un document sur la révélation divine, la finalité en est missionnaire. Pour que, grâce à cette proclamation du salut, le monde puisse croire. Donc, proposer aux fidèles de réfléchir à la révélation, de l'approfondir pour pouvoir en être témoin dans le monde. Donc, ce préambule donne un peu le dynamisme missionnaire qui préside au travail des pères. Le paragraphe 2, nature de la révélation, est important. Comme souvent, l'entrée dans un document, le premier paragraphe, les rédacteurs mis au point le document, tournent trois fois leur plume dans l'encrier avant de le rédiger. Donc il est assez dense, c'est pourquoi on va le lire ensemble. C'est le paragraphe 2, nature de la révélation. Donc je crois, sauf erreur, vous l'avez sur les feuilles. Il a plu à Dieu dans sa bonté et sa sagesse de se révéler en personne et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, par le Christ, le Verbe fait chair, accèdent dans l'Esprit Saint auprès du Père et sont rendus participants de la nature divine. Par cette révélation, le Dieu invisible s'adresse aux hommes en son surabondant amour comme à des amis. Il s'entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager sa propre vie. Pareille économie de la révélation, en langage théologique, économie veut dire déploiement organique. Ça n'a rien à voir avec les finances. Économie de la révélation, ça veut dire le déploiement organique de la révélation. Pareille économie de la révélation comprend des actions et des paroles intimement liées entre elles, de sorte que les œuvres accomplies par Dieu dans l'histoire du salut attestent et corroborent et la doctrine et le sens indiqué par les paroles, tandis que réciproquement les paroles proclament les œuvres et éclairent le mystère qu'elles contiennent. La profonde vérité que cette révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme resplendit pour nous dans le Christ, qui est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Un texte très dense, je le clarifie un peu, je distingue quatre éléments qu'on a vus au fil du texte. On nous donne l'origine de la révélation. C'est les termes, à la première ligne, ça vient de la bonté de Dieu, de sa sagesse, ou au quatrième ligne, de son surabondant amour. Donc ce qui pousse Dieu à se révéler, c'est sa sagesse et sa bonté. Ça, c'est concernant l'origine. Deuxièmement, nous est donné le but de cette révélation, l'intention. La finalité, ça procède de sa bonté, de sa sagesse, mais ça vise quoi? Là, ce sont les termes qui nous disent, deuxième ligne, que nous puissions accéder auprès du Père. Troisième ligne, être rendus participants de la nature divine. Cinquième ligne, partager sa propre vie. Autrement dit, c'est l'accès, la participation à la vie même de Dieu. Si Dieu se révèle, ce n'est pas simplement pour éclairer notre esprit, mais vraiment pour nous faire participer à sa vie. Et cela se dit aussi en termes de salut, puisque par le péché, nous avons besoin d'être réconciliés, élevés pour entrer dans la vie de Dieu. Donc l'origine, la finalité, troisièmement, nous est dit le contenu de la révélation. Dieu, il lui a plu de se révéler lui-même, première ligne, et de faire connaître le mystère de sa volonté, grâce auquel les hommes, autrement dit, de faire connaître sa propre personne, mais aussi le souhait qu'il a vis-à-vis des hommes. C'est repris à l'avant-dernière ligne, la révélation manifeste sur Dieu et sur le salut de l'homme, une lumière. Donc, Dieu se révèle tel qu'en lui-même, mais aussi quant à son intention en faveur des hommes. C'est le contenu de la révélation. Quatrièmement, les moyens qu'il prend. Ça, je les vois, Dieu se révèle par des actions et des paroles. Dieu agit et parle. Dans l'Ancien Testament, il agit en faveur de son peuple, il intervient, il parle par ses prophètes. Jésus révèle le Père de deux manières. Par ce qu'il fait, par ce qu'il est, posant des gestes de bonté, et par ce qu'il dit, ses discours. Donc, par des actions et des paroles. Dont le sommet, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Jésus, le sommet est le Christ. Vous voyez que le Christ est mentionné au début, deuxième ligne, et à la fin, resplendit pour nous dans le Christ. Autrement dit, c'est la parole et l'action du Christ qui nous livrent par excellence cette révélation. Et il y a une belle formule à la fin qui éclaire ce qu'est le Christ, son rôle dans la révélation. Il est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. Il en est le médiateur au sens où il nous apporte la révélation. Mais en même temps, si celui qui est à révéler, c'est Dieu, il est en sa propre personne révélation du Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Il apporte cette révélation non pas comme quelque chose qui serait étranger à lui-même, mais comme sa propre personne en tant qu'elle nous fait connaître qui est le Père, qu'elle nous révèle le Père. C'est pour ça, médiateur et plénitude en lui-même de la révélation. Autrement dit, le Christ est le moyen finalement le plus adéquat par lequel Dieu se révèle et en même temps le contenu le plus total de la révélation. Voilà ce que nous dit, me semble-t-il, d'une manière de pointer ce que ce texte nous dit, l'origine de la révélation, sa finalité, son contenu, les moyens que Dieu prend. Je parcours alors, en pointant seulement une autre idée force, les paragraphes suivants. La préparation de la révélation évangélique reprend un peu ce que vous trouvez, par exemple, dans la quatrième prière eucharistique. Tu as créé l'homme à l'origine, et comme il avait péché, tu ne l'as pas abandonné, mais tu es venu, et on reparcourt progressivement le chemin que Dieu a fait pour nous préparer au salut. Sont évoqués dans ce paragraphe le fait que Dieu déjà présente quelque chose de lui-même dans le monde créé, dans la création, un témoignage durable sur lui-même. Mais alors, il veut nous ouvrir le chemin du salut parce que, après la chute des premiers parents, il ne les a pas abandonnés. Un chemin en vue du salut s'est ouvert. Et là, on rappelle Abraham, les patriarches, Moïse, les prophètes, etc., envisagés comme les jalons d'un chemin qui prépare à l'accueil du salut, la préparation de la révélation évangélique. Les derniers mots de ce paragraphe le disent bien, pour qu'on puisse attendre le Sauveur promis, à travers les siècles, Dieu préparera la route à l'Évangile. C'est souvent cristallisé dans la formule, la première alliance est une préparation évangélica, une préparation de la bonne nouvelle qui arrive en plénitude dans le temps du Nouveau Testament. C'est le paragraphe suivant, 4, le Christ achève la révélation. Le Christ, plénitude personnelle de la révélation. Le Christ ne commence pas avec Jésus de Nazareth. Oui, comme Christ, mais de toute éternité, il y a le Verbe éternel qui est auprès du Père. Et pour se révéler, Dieu décide que le Verbe éternel va s'incarner. C'est le Verbe fait chair, dont nous parle le prologue de Saint Jean. Donc le moment où Dieu, pour se révéler, il a déjà commencé à se révéler en agissant dans le temps de l'Ancien Testament et par la parole des prophètes, mais pour agir et nous parler définitivement, Dieu, comme dit Saint Ignace dans les exercices spirituels, voyant le monde, décide de faire la rédemption et c'est l'incarnation du Verbe qui va permettre alors à l'œuvre du salut de s'achever parce que le Christ a pour nourriture de mener à bien, comme il est dit en Saint Jean, l'œuvre à accomplir que Dieu lui a donnée. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui le voit, a vu le Père, eh bien, accomplit la révélation par, et je reprends les moyens repérés par le texte, il prend par ce qu'il est, ce qu'il fait et dit, et le sommet de ce qu'il fait et dit apparaît au moment de son jugement, son procès dans sa passion, son mystère de mort et de résurrection. Le sommet de l'agir de Dieu parmi nous en son Fils, c'est bien sûr le mystère pascal, et enfin, cette révélation à partir du Fils s'accomplit pleinement dans le don de l'Esprit. Donc, le Christ achève la révélation en s'incarnant, en vivant, en souffrant, en ressuscitant, en envoyant l'Esprit. Paragraphe suivant. Si Dieu prend l'initiative de se révéler, paragraphe 5, il s'agit d'accueillir la révélation par la foi. Dieu se révèle, il est fiable, mais il faut que le cœur de l'homme accueille cette révélation. Quand Dieu se révèle, la clarté de ce qu'il est ne s'impose pas comme un théorème mathématique. Il faut l'ouverture du cœur, il y faut la foi. Il faut que le croyant accorde l'adhésion pleine de son intelligence et de sa volonté à la révélation qui lui est faite. Révélation appelle un accueil. Sinon, Dieu a beau se révéler, s'il n'y a pas de cœur pour l'accueillir, il se révèle dans le vide, donc il ne se révèle pour personne. Donc la foi qui accueille la révélation est importante. Et la foi est possible, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous aide à accomplir le premier pas de la foi. Il y a déjà la grâce de Dieu qui travaille dans notre cœur pour nous donner, de nous ouvrir à la révélation qui nous est faite. Et en plus, non seulement cette grâce est au principe, mais elle nous accompagne et elle nous permet de grandir dans la foi. C'est l'essentiel de ce paragraphe. Nous devons répondre à la révélation par la foi, et cette foi est possible grâce à l'aide de la grâce divine, de son esprit, au départ et pour nous mener à une foi plus parfaite. Le paragraphe 6, on l'a lu, je l'ai lu au début, c'est celui qui nous dit que au-delà de notre connaissance naturelle de Dieu, nous avons besoin de sa révélation surnaturelle, en raison de notre faiblesse, de notre finitude, de notre péché. Chapitre 2, la transmission de la révélation divine. Le paragraphe 7 insiste sur le fait que la transmission a été voulue et instituée par Jésus lui-même. Jésus apporte la plénitude de la révélation, mais il s'intéresse aussi à la manière dont elle va pouvoir être transmise après lui, une fois qu'il ne sera plus parmi nous. C'est pourquoi, ayant accompli lui-même et proclamé l'évangile annoncé par les prophètes, il ordonna à ses apôtres de le prêcher. Suffit pas qu'il le leur demande, il faut qu'il les en rende capables, en leur communiquant les dons divins. Il ne suffit pas qu'il les en rende capables, il faut aussi qu'eux le veuillent bien. Donc l'ordre du Christ a été fidèlement exécuté par les apôtres, par leur prédication orale, leurs exemples. Et les apôtres ont eux-mêmes alors formé des hommes apostoliques, c'est-à-dire des hommes de la première génération apostolique, qui sous l'inspiration de l'Esprit ont consigné par écrit le message du salut. Donc on pose les jalons initiaux de la transmission. Le Christ confie à ses apôtres, les en rend capables, et autour des apôtres, parce que tous les évangélistes ne sont pas nécessairement apôtres, loin de là, il y a des hommes de la génération apostolique qui ont mis par écrit, et ainsi, cette révélation va pouvoir être transmise, puisque un support écrit est la garantie d'une transmission à travers les siècles. Il y a une très belle expression, c'est facile à retenir comme référence, la 2e à Timothée, chapitre 2, verset 2. Paul dit, cher Timothée, ce que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient à leur tour capables de le communiquer à d'autres. Les 4 premiers jalons de la transmission apostolique sont là. Paul, Timothée, les hommes fidèles qu'il doit former, qui seront eux-mêmes capables d'en former d'autres après lui. les apôtres, leurs successeurs, proclamateurs de l'évangile. Et puis, les apôtres ont laissé comme successeurs les évêques. Là, on voit qu'on s'ouvre à tout le temps de l'Église. C'est l'intention de ce paragraphe 7. Le paragraphe 8, la sainte tradition qui vient des apôtres. Il ne suffit pas que le message ait commencé à se transmettre au début, les premières décennies de l'Église, mais il faut qu'il puisse perdurer dans les siècles sous un double aspect. Je repère les mots importants. Il s'agit de transmettre ce qu'on a reçu, aider les fidèles à garder les traditions. Autrement dit, il y a un aspect de bon dépôt à transmettre. Mais il y a un autre aspect complémentaire. Ce n'est pas un dépôt statique. La tradition qui interprète l'écriture grandit aussi dans l'intelligence de l'écriture. Donc il y a quelque chose de dynamique aussi. Cette tradition qui vient des apôtres se développe dans l'Église. Elle grandit. Elle grandit comment ? Par la contemplation, l'étude, la proclamation, et elle tend toujours à une plénitude de vérité divine. La révélation, elle a été donnée en plénitude une fois pour toutes par Jésus. Mais l'intelligence, l'accueil que nous pouvons en avoir, lui, est appelé à grandir sans cesse dans la tradition interprétante de l'Église. La contemplation d'Église, le travail des évêques permet que l'on comprenne toujours mieux cette révélation une fois, donnée une fois pour toutes. Il n'y a rien à y ajouter, mais il y a ajouté à notre capacité de l'accueillir et de la comprendre. Ça oui. Donc le double aspect, transmission d'un dépôt et aussi croissance de la tradition. Paragraphe 9 est important. Rapport mutuel de la tradition et de l'écriture. Toutes deux découlent d'une même source, se réunissent pour ainsi dire en un seul courant et tendent à la même fin. On donne une définition de l'une et l'autre. L'écriture, c'est la parole en tant qu'elle est consignée par écrit. Et la tradition, c'est la même parole en tant que ce qui a été mis par écrit est transmis, expliqué, proclamé. On aurait beau avoir les textes sacrés, s'ils ne sont pas transmis, commentés de manière vivante dans la tradition, ils ne nous rejoignent pas. Et si la tradition, c'était uniquement des textes conciliaires et que l'écriture était des vieux parchemins, elle ne serait pas nourrie. Donc il faut les deux, écriture et tradition. Songez déjà à la démarche des pharisiens à l'époque du Christ. Ils considèrent l'écriture, mais en même temps, ils s'interrogent dans leur tradition comment, dans tel contexte, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Écriture et tradition étaient déjà dans un des courants du judaïsme, qui était la pratique pharisienne. Et c'est ce que fait Jésus, il reprend l'écriture et il la commente, il la transmet. Donc les deux sont inséparables. Le troisième chapitre, donc ça c'était ce qui touche la transmission de la révélation. À partir de ces deux modalités inséparables, écriture et tradition. L'inspiration divine de la Sainte Écriture. Les Écritures ont Dieu pour auteur. C'est lui, par son esprit, qui inspire les écrivains. Et en même temps, celui qui tient la plume, le rédacteur humain, est aussi auteur. Le texte dit, il les inspire, pour que lui-même, Dieu, agissant en eux et par eux, avec l'usage de leurs facultés et de toutes leurs ressources, ils transmettent par écrit, en auteur véritable, tout ce que Dieu voulait exprimer, et cela seulement. Donc, l'auteur de l'écriture, qui est l'auteur de l'écriture? C'est inséparablement Dieu est l'auteur humain. C'est l'auteur humain, mais en tant que inspiré par Dieu. Mais Dieu respecte les moyens de l'auteur humain. Il n'engendre pas simplement la conception de l'inspiration pour un croyant juif ou chrétien est très différente de celle pour un musulman. Pour un musulman, le Coran a été transmis intégralement, lettre dictée, lettre par lettre, au prophète. Qui n'a servi que de porte-plume. Dans la tradition juive et chrétienne, Dieu respecte les modalités, les manières littéraires, culturelles, qui étaient celles des auteurs du temps, mais les visites de son esprit pour les mettre au service de la révélation qu'il veut transmettre. Donc l'auteur de l'écriture, c'est inséparablement l'auteur qui a rassemblé les sources, qui a rédigé, et Dieu. On utilise plusieurs images pour dire ça. L'image de l'instrumentiste et l'instrument. L'image de celui qui tient la plume et celui qui le guide, etc. Ou bien l'image du messager. Dieu est celui qui confie un message, mais il appartient au messager, lorsqu'il arrive pour le confier à tel ou tel public, de trouver la manière de rédiger. Donc l'auteur humain doit trouver la juste manière de transmettre ce que Dieu lui a confié comme message. Donc l'inspiration de l'écriture signifie que, comme dit saint Paul, l'esprit de Dieu se joint à notre esprit. Les facultés humaines sont comme vivifiées de l'intérieur pour être rendues aptes à transmettre le message divin. Comment interpréter l'écriture? Vous avez le paragraphe sur la feuille de route. Je le parcours rapidement. Je prends la bonne feuille. Voilà. Paragraphe 12. Puisque Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par des hommes à la manière des hommes, il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes, ça veut dire les auteurs sacrés, hein, les auteurs des livres bibliques, ont voulu dire ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Et pour cela, il faut prêter attention, entre autres choses, c'est pas la seule chose, mais notamment au genre littéraire. Pourquoi ? Le genre littéraire des livres bibliques peut varier. Oui. D'une part, il y a des livres historiques dans la Bible. L'historicité des récits sur les patriarches n'est pas le même que le degré d'historicité des écrits qui nous rappellent la persécution des Maccabées au IIe siècle avant le Christ. Il y a un niveau de précision historique qui est différent. Une manière de s'exprimer prophétiquement par image, c'est encore autre chose. Une manière de prier Dieu dans les psaumes ou d'avoir un langage poétique comme dans le Cantique des Cantiques, c'est encore autre chose. Donc il faut interpréter les textes en fonction de leur genre littéraire. Il ne faut pas interpréter un texte poétique avec les outils pour analyser un texte historique. Il faut mettre les bonnes lunettes. C'est important parce que le défaut d'une lecture fondamentaliste, comme on dit de l'écriture, c'est de prendre tous les textes sur le même plan et de croire que ce qui est raconté de Caïn et Abel s'est passé littéralement comme cela, de la même manière que ce qui est dit de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Or, c'est des genres littéraires un peu différents. Donc c'est important pour bien interpréter l'écriture. Et la condescendance de Dieu, le point 13, c'est le fait que, justement, Dieu a su, en respectant les possibilités du langage humain, mais s'adapter pour transmettre sa révélation. Les chapitres 4 et 5, je dirais, par définition, par fréquentation de l'Écriture, vous les connaissez mieux, hein, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Je pointe simplement le paragraphe 16, l'unité des deux testaments à la charnière. Vous l'avez sur le texte. Donc c'est le paragraphe 16, l'unité des deux testaments. L'inspirateur et auteur des livres de l'un et l'autre testament, c'est Dieu, et il a sagement disposé de telle sorte que le Nouveau Testament soit caché dans l'Ancien et que dans le Nouveau, l'Ancien soit dévoilé. Il y a une formule de saint Augustin qui joue un peu sur les mots en disant le Nouveau, la tête, c'est un mot latin, est latent, est caché dans l'Ancien. tel psaume de souffrance déjà recèle entre les lignes peut-être ce que seront les souffrances du Christ à la Passion. Et d'autre part, l'ancien patète, c'est-à-dire devient patent, devient évident, s'ouvre dans le nouveau. Saint Augustin joue sur cette différence d'une lettre entre les deux mots pour avoir cette belle formule. Le nouveau était caché dans l'ancien et dans le nouveau, l'ancien est dévoilé. Songez à ce que Jésus fait avec les disciples d'Emmaüs. Il reparcourt toutes les Écritures et sans doute qu'il a pris, entre autres, les chants du serviteur souffrant, des psaumes qui pouvaient se comprendre à la lumière du Christ, pour leur faire comprendre qu'il fallait que le Messie souffre. Autrement dit, il est en train d'expliquer le cœur du Nouveau Testament, ses souffrances et sa résurrection, à partir de textes de l'Ancien. Et sans doute que pour les disciples, ces textes de l'Ancien Testament, une fois, notre cœur n'était-il pas tout brûlant lorsqu'il nous ouvrait les Écritures, tout d'un coup, ces textes prennent une lumière nouvelle. Bien sûr, ils comprennent tout d'un coup la portée ultime de ces textes de l'Ancien Testament. Et en même temps, dans l'autre sens, ces textes de l'Ancien Testament les aident à comprendre ce que le Christ souffre. Lorsque le Vendredi Saint, vous entendez le chant du serviteur souffrant lu, c'est quand même, ça vous prend, parce que vous dites, c'est quand même un portrait prophétique absolument impressionnant du don du Christ dans sa Passion. C'est ça l'importance du rapport entre les deux testaments. Enfin, le dernier chapitre, la Sainte Écriture dans la vie de l'Église. On rappelle son importance en général, la nécessité d'avoir des versions et traductions. La Bible, pour un chrétien, peut et doit être traduite. Il n'y a pas de langue sacrée au sens d'intouchable. Si on veut que la Bible, où Dieu se révèle, soit accessible à tous les hommes, on ne peut que souhaiter que de plus en plus d'hommes dans le monde accèdent à la parole de Dieu dans leur langue. Mais bien sûr, avec un travail pour que ces traductions soient les plus fidèles possibles au texte original. Mais donc l'Église encourage les versions de l'Écriture faites dans les langues courantes, à partir des textes originaux. Donc, nécessité des versions et traductions. La tâche apostolique des théologiens catholiques est importante. Et notamment, je termine, c'est le dernier paragraphe que j'ai mis sur votre feuille, Écriture sainte et théologie. En fait, on va le voir, et théologie et pastorale et catéchèse. La théologie sacrée s'appuie sur la parole de Dieu écrite, inséparable de la sainte tradition. On l'a bien compris, écriture et tradition, c'est important, comme un fondement permanent. En elle aussi, elle se fortifie, s'affermit, se rajeunit toujours, il y a un progrès de la théologie, de la tradition, tandis qu'elle scrute sous la lumière de la foi toute la vérité qui se puisse cacher dans le mystère du Christ. Les saintes écritures contiennent la parole de Dieu, et puisqu'elles sont inspirées, elles sont vraiment cette parole. Que l'étude de la Sainte Écriture soit donc pour la théologie sacrée comme son âme. L'Écriture comme âme de toute la théologie. C'est une formule que le Concile n'invente pas. Il la reprend déjà au pape Léon XIII en 1893 et encore reprise par Benoît XV en 1920. Mais il l'intègre vraiment dans cette constitution dogmatique. Que l'Écriture soit comme l'âme de toute la théologie. Je ne sais pas si vous mesurez, dans la formation des séminaristes et de ceux qui font de la théologie, qui se préparent au sacerdoce ou non, ce que ça veut dire. Jusqu'à 35-40 ans, on procédait en théologie par traité dogmatique. Il y a le traité de l'incarnation, il y a le traité de la création, etc. Bien sûr, on utilisait l'Écriture, abondant de citations, mais on avait peu de parcours de l'Écriture pour elle-même, s'immerger complètement dans un livre biblique, le goûter à fond, et ça se faisait guère. Et donc, si on veut que l'Écriture soit comme l'âme de toute la théologie, il faut se plonger dans l'Écriture et voir comment elle nourrit et la foi, et la charité, et l'espérance. Et l'intelligence du mystère de Dieu, c'est la foi. Et la charité, c'est la norme de ce qu'il faut faire, et l'espérance, et l'horizon dernier de ce à quoi on accède. Je viens de parler de ce qu'on appelle les trois sens spirituels de l'écriture. La lettre de l'écriture nourrit notre foi, ce qu'il nous est dit de faire, dont la norme dernière c'est la charité, et notre espérance, ce vers quoi nous tendons. C'est ça qu'il y a derrière cette formule, apparemment bref, l'écriture âme de toute la théologie. Autrement dit, qu'on soit dans un cours de dogmatique, de morale ou de mystique, on va se nourrir de l'écriture. C'est ça que ça veut dire aussi. Voilà. Et puis, recommandation pour la lecture de l'écriture. Dans ce paragraphe, on recommande non seulement à ceux qui se forment, les catéchistes, les diacres, les prêtres, etc., ou les formateurs, mais à tous les fidèles, de fréquenter l'écriture en la lisant, en l'étudiant, au besoin, en assistant à des cours, comme vous le faites, et en la priant surtout. C'est le plus important. C'est ça le point par lequel l'écriture va nourrir la vie de l'Église, qu'elle soit non seulement étudiée, mais priée. Merci de votre attention.